Je m'appelle Nayan Sakou Mufonkolo.
Mes pronoms sont they et they, français-anglais. Il n'y a pas vraiment de préférence. Je suis moi. Je suis moi. J'habite Lausanne. Je travaille à Lausanne et à Genève. J'enseigne à l'ERACOM. Je travaille en tant qu'assistante pour le Master CCC et comme membre du groupe de pilotage. Assez simplement, donc, je suis diplômée à l'Université de Lausanne en anglais avec spécialisation en New American Studies et en histoire de l'art. Et du coup, je suis aussi artiste chercheuse. Je fais de la recherche à travers ma pratique artistique qui est surtout de la poésie. J'ai toujours travaillé le texte. Et de par ma subjectivité et mes identités, en tant que personne afrodescendante, trans, non-binaire, c'est vrai que mes identités sont quand même au cœur et au centre de mes recherches, étant donné que je m'inscris et j'arpente et j'existe dans, on va dire, un milieu donné, avec des structures de pouvoir données qui influent et qui impactent ma réalité ou mes réalités. Du coup, à travers mes recherches, ce que je cristallise beaucoup, c'est des formes de réécriture. J'écris essentiellement en anglais parce que c'est une langue qui est nettement moins genrée et binaire, on va dire, que l'est le français. Aussi parce qu'elle permet beaucoup plus de liberté comme langue pour créer des nouveaux termes, pour faire aussi des jeux de mots. C'est vrai que je travaille donc la fragmentation, une fragmentation qui va être multiple et qui résonne beaucoup avec mes identités, qui sont, comme je l'ai dit, multiples, et qui s'articulent à travers tout ce que je fais dans la vie de manière générale. Donc qui entrent en résonance avec les études que j'ai faites, avec mon parcours, mes parcours, avec également les différents métiers ou en tout cas les postes que j'occupe de manière rémunérée, mais aussi des choses non rémunérées que je peux faire. Là, dans les recherches actuelles, je suis autant dans une recherche de médium. C'est vrai que la poésie est généralement une pratique qu'on entend à travers le papier. On voit cette manière un peu très classique de la personne poète qui écrit sur ses feuilles de papier, etc., etc., et qui, à mon sens, pose énormément de contraintes. Et dans une volonté justement d'expansion qui se fait de manière complètement protéiforme, en ce moment j'explore l'éclatement aussi, justement, du médium. Comment est-ce qu'on peut transposer les mots et leur résonance autant dans des espaces, trois dimensions, en guillemets, et plus non plus uniquement, en tout cas, la deux dimensions qu'offre le papier. Par rapport au thème que j'explore beaucoup, ça dépend. Je travaille un peu en parallèle sur deux axes principaux qui vont être d'une part la reconsidération ou la considération de l'histoire, de manière générale, de l'histoire en tout cas hégémonique qu'on raconte, avec une volonté de sa déconstruction à travers ses aberrations. Et je joue beaucoup avec les mots à ce niveau-là, à travers des répétitions pour en fait montrer le caractère, on va dire, répétitif, qui fait qu'on a tout simplement réitéré, qu'on a naturalisé et qu'on reproduit en fait des systèmes. J'ai pas envie de dire que je joue avec quelque chose qui serait de l'ordre de l'absurde, parce que c'est pas quelque chose qui va être absurde, mais au contraire qui va révéler à travers la répétition et qui va forcer en fait, une répétition en tout cas forcée, qui révèle ces fictions. Je m'appuie aussi beaucoup, j'aime beaucoup regarder tout ce qui est en termes de communication à travers les nouveaux médias, que ce soit les emojis, etc., etc., qu'en ce moment je suis en train d'étudier pas mal et de ce que ça peut aussi apporter, de cette manière d'écrire aussi qui va être beaucoup plus cryptique. C'est vrai que de manière générale, dans mon écriture, c'est une écriture parfois qui peut être assez cryptique, dans le sens où, à travers la fragmentation, j'explore aussi le fait de lire à tellement de niveaux différents sans qu'il y ait une linéarité en fait, du texte. C'est-à-dire que, généralement, on lit, en tout cas ici, de gauche à droite, en suivant un certain rythme, en suivant en tout cas une certaine grille. Et c'est quelque chose que j'essayais de casser aussi, parce que ça fait partie justement de toutes ces fictions en fait, qu'on nous a inculquées et qu'on continue de nous inculquer. Autrement et d'une manière différente, j'explore aussi beaucoup les questions en lien avec mon identité et qu'est-ce que ça pose aussi, comment est-ce que je peux aussi me raconter dans une perspective afroféministe, en touchant beaucoup à un ailleurs qui ne va pas forcément être terrestre, ou si terrestre, excessivement organique et pas forcément humain. Donc à travers tout un imaginaire qui puisera ailleurs justement que dans, entre guillemets, la chair humaine, qui a été tellement théorisée justement à des fins de hiérarchisation de la race, des races, du genre, etc., etc. Donc vraiment trouver des manières de désincarner aussi tout ça. De manière générale, quand j'entends fiction, j'entends des formes d'histoire. Donc autant les fictions hégémoniques qui vont être les histoires dominantes que toute histoire qui peut être construite et racontée. Je parle en termes de fiction, pas dans un sens où c'est quelque chose qui n'a pas d'agentivité et qui ne va pas agir, mais en termes justement d'un construit, de construit qui va avoir un pouvoir performatif dans la réalité et le vécu des gens. Et du coup, pour ma part, j'essaie de créer aussi d'autres formes d'histoire, d'autres fictions. J'aime bien le terme de fiction, même si parfois il peut être un peu débattu. Je l'aime bien parce que je pense que c'est mon rapport au texte depuis que j'ai commencé à écrire des poèmes durant l'enfance, qui étaient déjà des sortes de fictions. Et j'essaye vraiment de désincarner justement ces fictions et de proposer des nouvelles fictions. Des fictions qui vont venir bousculer, qui vont venir également questionner. C'est par exemple quelque chose que je fais beaucoup avec mes élèves, où comme j'enseigne de l'anglais technique pour des personnes qui font un apprentissage en design d'interaction, c'est vrai que ce sont des personnes qui sont les futurs pros de la communication visuelle. Et les images sont hyper importantes. Les représentations sont hyper importantes. Et que du coup, ces personnes ont dans leurs mains un rôle énorme à jouer sur comment est-ce qu'elles vont construire des images qui vont être vues, absorbées et lues par toute personne qui vont croiser leur production. Et là-dedans, j'essaie d'intégrer justement le fait de leur fournir des outils critiques. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles vont forcément tout absorber ou quoi que ce soit, mais qu'elles puissent en fait avoir un regard critique sur la construction des images, sur les stéréotypes qui se jouent, qui se rejouent, sur l'importance des mots, l'importance des connotations, des dénotations et de tout le langage, entre guillemets, et de tous les éléments intertextuels, pour qu'elles aient les clés en main de se dire, ou en tout cas de pouvoir penser les représentations aussi différemment. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et qui s'insère complètement aussi dans mes recherches, dans une certaine mesure. Il y a toujours une notion de proximité qui est plus ou moins proche, plus ou moins lointaine, mais pour moi, ça y participe aussi, en fait, de réfléchir et d'entamer aussi des dialogues à ce niveau-là. Quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui est lié, c'est le fait que j'ai eu un dégoût pour le monde académique, universitaire surtout, parce que c'est élitiste et classiste et tout ce qui va avec. Et même le jargon qui est employé et la manière dont on pense en fait les choses sans vraiment avoir une action entre guillemets concrète dans le vécu de tout un chacun, de tout un chacun, tout un chacune, dans la réalité du monde entre guillemets, c'est-à-dire les choses les plus basiques. Et c'est vrai que pour moi, la notion de vulgarisation est très importante. Parce qu'en fait, pendant mes études à l'université, au début, c'était très difficile parce que je ne suis pas du tout issue d'une famille qui a été à l'université. Je suis la première personne à avoir fait l'université, à être diplômée de l'université. Et j'ai dû apprendre le jargon, en fait. J'ai dû apprendre tout un jargon. J'ai dû, en fait, m'approprier et me lisser, dans une certaine mesure, rentrer dans un moule pour pouvoir réaliser, en fait, mes études, avoir un diplôme, etc., etc. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte, après coup, à quel point ça m'a aussi éloigné. En parlant avec des personnes ou quoi que ce soit, d'un coup, j'utilisais un certain jargon, les gens ne comprenaient pas forcément. Et c'était un peu cette espèce de double mouvement dans lequel, d'un côté, j'ai lutté pour pouvoir me l'approprier et pouvoir justement réussir, mais d'un autre côté, je me suis complètement détachée dans une certaine mesure de la manière de pouvoir expliquer les choses. C'est aussi pour ça que ma recherche maintenant, elle s'articule plus autour de la poésie et pas à travers une écriture académique très pompeuse, très inaccessible, pour avoir quelque chose qui soit plus accessible. J'aime beaucoup l'enseignement et les échanges que j'ai avec mes élèves au niveau du poste obligatoire, parce qu'on peut vraiment entamer des dialogues et j'arrive en tout cas à vulgariser des concepts parfois très pointus que j'ai pu voir et étudier à l'université et les rendre accessibles en fait à des jeunes qui ont 15, 16, 17 jusqu'à 38 ans par exemple. Et de justement sortir un peu des choses qu'on voit à l'université, il faut que ce soit aussi accessible. Après, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux et tout ce qui va avec, il y a aussi énormément d'accessibilité et de vulgarisation qui sont faites. Et ça, c'est aussi super. J'utilise pas les réseaux pour forcément faire de la vulgarisation, parce que j'ai parfois un peu de peine à être synthétique sur certaines choses. Et puis, c'est vraiment un... Les réseaux sociaux demandent une forme de rigueur que je n'ai pas forcément pour les réseaux. Donc c'est vrai que dans un rythme de publication, etc., etc., donc j'utilise pas spécifiquement, en tout cas, pour... Non. Mais c'est aussi une question à ce moment-là qui se pose de qui est-ce qui a accès. Parce que c'est vrai que, de manière générale, l'art reste quand même un milieu excessivement élitiste, à majorité blanche, et de personnes d'un certain niveau, en tout cas culturel, et tout ce qui va avec, de manière générale. On parle de capitalisme culturel, etc., etc. C'est pas forcément pour rien. C'est une question que je me pose d'ailleurs en termes de comment visibiliser, en tout cas aussi peut-être les choses que je fais, la production que j'ai. Et c'est vrai que la notion de publication est quelque chose qui m'intéresse. Même si ça reste encore dans un format où on reste sur du papier, et etc., etc. Je peux parler de ma dernière exposition, qui était en même temps aussi ma première exposition, dans un lieu d'exposition classique, avec aussi tout ce que ça incombe et que ça sous-tend. Et ça a été une expérience vraiment très intéressante pour moi, parce qu'elle m'a, ça m'a aussi demandé de beaucoup travailler sur différents médiums. À la base, je me disais, mais peut-être que je peux travailler sur papier. Et je me suis dit que je n'avais pas du tout envie de travailler sur papier. Ça fait un moment donné que je me dis que je n'ai pas envie de travailler sur papier de toute façon. Et là, ça a été un peu un espèce de coup de boost pour travailler, pour essayer et expérimenter. J'aime beaucoup expérimenter. Et du coup, expérimenter d'autres médiums. Donc j'ai fait cette exposition avec David Fernandez, dans le cadre de la fête du slip, qui s'appelle NCC 0218 CCDM 1713, qui était les coordonnées fictives d'une étoile double dans une constellation, dans une galaxie qui se situe dans la constellation d'Andromède. Et on a présenté des pièces communes, et j'ai présenté une installation notamment, qui a été réalisé avec des chaînes et des seaux. Donc j'ai fragmenté complètement un poème que j'avais écrit, qui était un poème très personnel que j'ai écrit. et qui se situait vraiment à l'entrée. Donc on avait un peu imaginé, c'était une expo complètement immersive, un sanctuaire justement de ce lieu, très en lien avec nos identités, en tant que personnes non cis, et où justement ce premier, en tout cas cette première installation, était d'emblée en arrivant. Il fallait passer à travers ces chaînes et donc à travers ces seaux, et ces mots, justement, qui ont été complètement fragmentés, parfois collés, qui rendaient la lisibilité aussi parfois très complexe et compliquée, qui était voulu de ma part, justement, aussi en termes de lisibilité. Et j'ai réalisé aussi trois tapisseries, donc un triptyque de trois tapisseries, aussi avec des chaînes, où j'ai aussi essayé de nouvelles formes d'impression. Travailler beaucoup avec de la colle de transfert que j'aime beaucoup parce que ça demande une implication aussi physique de devoir faire tout ce processus. On a fait une toile, on a fait une tapisserie, David et moi, où on a passé à peu près 8 heures dessus, vraiment non-stop. Et donc du coup, il y a vraiment eu cet aspect rituel et complètement, entre guillemets, thérapeutique qui était super. Et c'est vrai que d'un point de vue des expositions, c'est quelque chose que j'aimerais continuer, peut-être aussi sous d'autres formes, et continuer d'explorer justement comment la fragmentation aussi de l'espace avec la fragmentation du texte et également le son, parce que je suis aussi très intéressée par le son. C'est vrai que lorsqu'on parle poésie, on pense aussi à la lecture, et la lecture, c'est encore autre chose. J'ai l'impression que ce que je fais s'inscrit aussi dans tout un tissu un peu intertextuel d'autres artistes, d'autres artistes de la région, mais aussi de plus loin, des connaissances et des personnes que je connais, et de leurs pratiques de manière générale, des discussions aussi que j'ai avec des gens, des personnes qui sont artistes, des personnes qui ne sont pas forcément artistes. J'ai toujours travaillé un peu seul dans mon coin, à écrire un peu seul dans mon coin, à pas trop montrer ce que je faisais avant, il y a pas si longtemps que ça non plus. Et c'est sûr que mon travail a été nourri et continue d'être nourri de mon quotidien, de mon vécu, de mes lectures, des discussions que j'ai avec des gens, de personnes aussi. Nourri également par ma famille. Et tout ça, c'est assez bateau dit comme ça, hein, j'ai l'impression. Parce que bien évidemment, il y a des personnes que je pourrais citer dont le travail me touche aussi beaucoup, qui pourrait être le travail de Mighty, par exemple, qui pourrait être beaucoup de pièces que j'ai pu voir au TU, qui pourrait être justement aussi les archipels à gogo de Mighty, le travail d'Anache. De manière plus large aussi, les sets, par exemple, et la musique Coffeness. Du coup, ouais, c'est ça se prend vraiment dans un genre de tissu, des personnes que je rencontre, de pièces même que je n'ai pas vues, mais dont je vois, par exemple, des fragments, stories sur Instagram, notamment de Ellie. Du coup, j'ai envie de dire que les personnes qui sont de la communauté afro-descendante, queer, c'est sûr, me nourrit. Après, au niveau des lectures, j'ai envie de dire que je lis tellement de choses tout le temps que je vais pas commencer à dresser toute une liste. Des rencontres aussi que je peux faire à la haine, notamment des jurés, par exemple, typiquement, que je peux rencontrer. Et en même temps, j'ai pas l'impression d'avoir vu... En tout cas, à travers la pratique de l'écriture poétique, vraiment comme ça, je connais pas forcément beaucoup d'autres personnes qui le font. Justement avec les jobs, etc. Et que j'ai une sacrée pile de livres qui attendent d'être lus depuis un moment, ou d'être aussi relus. Donc, que j'ai pas encore lus, mais qui m'attendent. Il y a Donica Kelly, que je me réjouis de lire beaucoup. En fait, il y a eu tout un moment où je me suis rendu compte que je lisais très peu de poésie, parce que j'avais encore été marquée par justement toute cette poésie, en guillemets, qu'on a tendance à lire, qui va être très élitiste et qui a été marquée par mes études, en fait, tout simplement, aussi à l'école, ce genre de choses. Donc même à un moment donné, juste de dire que ce que je faisais était de la poésie, à un moment donné, j'ai dû simplement faire ce mouvement un peu de décolonisation et de décentrement, en fait, de ce qu'est la poésie, en termes de rythme, en termes de rime, etc., etc. Il y a aussi Angel Nafis qui m'attend, que je me réjouis. Donc j'ai un peu fait là j'essaie de rattraper aussi, de mon côté, plein d'auteurices à côté desquelles je suis passée. Et de faire aussi justement toute cette démarche. Après, il y a aussi la question de... J'ai aussi envie, dans une certaine mesure, de décentrer aussi des États-Unis. Il y a toujours cette question de, ou en tout cas ce focus qui est mis sur les États-Unis, et puis les philosophes, poètes, écrivains états-uniens. Et c'est vrai que j'ai aussi envie de mieux savoir ce qui se fait ici, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont à découvrir, que j'ai à découvrir en tout cas, de mon côté. Je pense par exemple à Jean-Michel Hiéré, que j'ai découvert là en participant à l'exposition 2 qui a été faite à Circuit, donc pour laquelle j'ai fait une contribution, et où j'ai découvert aussi justement un poème de cette personne que j'ai trouvé absolument magnifique. Donc ouais, j'ai un gros travail, on va dire, de recherche aussi à faire à ce niveau-là. Je pense que pour trouver justement les autres réseaux, et des réseaux qui sont peut-être moins mainstream ou moins visibles, il faut aussi savoir passer par des réseaux. Et puis, je crois que ça, c'est ma formation de bibliothécaire d'un coup qui revient. Puis c'est aussi ce qui fait la richesse, en fait. J'ai quelque chose qui me plaît beaucoup dans le fait de chercher. Des fois, on pense chercher quelque chose, et puis en fait, on va tomber sur complètement autre chose. Et c'est soit cet effet de surprise, et en tout cas de richesse. C'est-à-dire que les différents éléments qu'on va trouver s'ajoutent. Et c'est juste, dans une certaine mesure, en tout cas, moi, je vois ça comme une forme de richesse. Que d'un coup, il y a justement cet effet ricochet. En voulant chercher quelque chose, il y a cet effet ricochet, mais il y a cet effet ricochet qui ne va pas que dans une seule direction, qui va dans plein de directions différentes. C'est un peu cette manière que j'ai des fois où je commence à chercher quelque chose sur Internet, et d'un coup, je me perds, mais je me perds complètement. Et j'ai 15 tables, voire 3 pages différentes ouvertes, où il y a 15 tables différentes avec des références différentes, et qui agencent aussi, enfin, qui entre beaucoup en résonance avec ma manière aussi de réfléchir, où en fait ça va être justement des formes de communication interne, des micro-communications en différentes idées qui vont à nouveau éclore et juste éclater en différentes autres formes de micro-communication avec d'autres thématiques, d'autres idées et tout ce qui va avec. Ma bibliothèque est toujours un peu en changement. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai envie de classer par sujet. Au début, c'était par taille, après, c'était par sujet. Là, en ce moment, j'essaie de faire des bibliographies. J'essaie d'arrêter de faire des screenshots et de les mettre tout simplement dans un folder, dans un dossier. J'essaie de faire des bibliographies. Mais le problème, c'est que des fois, je me retrouve avec plein de fichiers différents, de bibliographies différentes, à des moments différents. Ou même des fois, je retrouve des bibliographies dans des notes sur mon attel. J'ai trouvé des bibliographies, entre guillemets, qui dataient de 2016, de 2014. Et puis j'étais là, mais pourquoi ? Qui est en même temps assez intéressante, parce qu'en avançant et puis en retombant dessus, ça permet vraiment de réfléchir en fait, à où est-ce que j'étais à ce moment-là. Qu'est-ce qui a aussi changé ? Est-ce que parmi dans cette bibliographie, il y a des ouvrages que j'ai lus, que j'ai survolés, ou j'ai lu qu'un seul chapitre? Parce que c'est aussi ça, il y a beaucoup de livres dans lesquels je ne vais pas forcément lire l'entier du livre, ou que je vais survoler, et ce genre de choses. Du coup, oui, je fais des bibliographies, j'essaie peut-être de moins en faire. Et on va dire que les entre guillemets, bibliographies actuelles sont les livres qu'il faut que je lise. On me dit suffisamment qu'il faut que j'arrête d'en acquérir d'autres et que je lise ce qu'il y a. Là, un des prochains livres que je veux lire, c'est Race After Technology, Abolitionist Tool for the New Jim Code. Voilà. Qui a été écrit par Ruha Benjamin. Et ça, c'est une de mes prochaines lectures dont je me réjouis beaucoup. C'est vrai que c'est des questions aussi en termes de technologie, etc., que je thématise pas mal, même aussi avec, par exemple, mes élèves, je leur apprends à quel point la photo et le médium photographique est biaisé, les biais ratios qu'il y a au sein de la photographie depuis les tout débuts, qui ont continué avec la photographie donc de l'analogique au numérique et maintenant dans tout ce qui va être les algorithmes, reconnaissance faciale, etc., etc. Pour aussi se rendre compte de la non-neutralité, parce qu'on a toujours tendance à dire la photo c'est neutre, ça représente la réalité, mais de montrer justement le caractère construit. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est typiquement ce genre de lecture aussi qui vient venir nourrir et qui va aussi m'apporter beaucoup, et que je vais aussi pouvoir retransmettre par la suite à une autre échelle, en tout cas pour un peu éduquer mes élèves, on va dire. À la aide, donc je suis assistante pour le master CCC depuis septembre dernier. Donc avec ma collègue, on fait beaucoup d'admin, mais on fait aussi les reading groups, qui sont des moments où on peut échanger avec les étudiants. Donc par exemple, on a fait un programme, c'est nous qui avons pu construire ce programme, et moi j'ai proposé des lectures critiques à mettre aussi en lumière ou à confronter. Et ça, c'est assez intéressant, justement, parce que c'est vrai que ce qui est très intéressant avec ce master, c'est qu'il y a des personnes qui viennent vraiment de tous horizons. Il n'y a pas uniquement des personnes qui sont issues d'écoles d'art. Et ça apporte énormément de richesse au sein même du master. On discute aussi beaucoup avec les étudiants, de manière générale. Il y a aussi les moments où il y a des tutorats. Donc les tutorats avec les étudiants où elles viennent nous parler de leurs travaux, de leurs recherches, parce que c'est un master de recherche qui se fait à travers la pratique. Et c'est aussi des moments d'échange. Après, il y a des moments aussi beaucoup plus, entre guillemets, informels, où il y a des étudiants qui envoient des mails parce qu'elles s'intéressent aussi à nos pratiques et elles nous posent des questions, des conseils par rapport à des lectures. Et ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est vraiment un endroit très riche, en tout cas, pour discuter, pour confronter aussi, ce qui est très intéressant, et pour réfléchir. Je me pose aussi la question en termes, comme je parlais au début, d'accessibilité. C'est vrai que, par exemple, j'écris en anglais, et en termes d'accessibilité, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Il n'y a pas forcément tout le monde qui parle anglais. Je pense par exemple notamment à ma mère qui ne parle pas l'anglais et à qui je commence à traduire mes poèmes, et ça pose aussi la question de la traduction du coup.